Dieu veut que ta vie ait un fort impact positif et éternel dans celle des autres. Je redis cela. Dieu veut que ta vie, et la mienne aussi, ait un fort impact positif et éternel dans celle des autres. Dieu veut nous équiper chaque jour pour bénir, pour nous bénir et impacter la vie des autres. Est-ce que vous réalisez cela ce matin ? Est-ce que vous vous êtes engagé à avoir jour après jour un impact dans la vie des autres pour leur bonheur, leur joie, leur encouragement, leur réussite et surtout pour qu'ils connaissent vraiment Dieu et placent leur foi en Jésus-Christ ? Impacter la vie des autres est vraiment important. L'éternel, plutôt l'éternité des personnes autour de nous en dépend. Ce n'est pas rien ce que je suis en train de dire maintenant. Par les 10 commandements et bien d'autres, Dieu avait pour but de se faire connaître, de montrer ses valeurs, de montrer au peuple comment avoir une relation juste avec lui et avec les autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu voulait que leur vie ait une influence importante pour les générations suivantes. Malheureusement, la première génération du peuple de Dieu a échoué car elle a commis l'idolâtrie et ne pouvait donc pas avoir un impact positif sur ses enfants. Dans le livre du Deutéronome, Moïse s'adresse à la deuxième génération pour qu'elle ne commette pas les mêmes erreurs que leurs parents. Lourde responsabilité pour Moïse. Moïse les encourage en leur rappelant le passé et en rappelant les commandements de Dieu. Le but de Moïse est que les Israélites conforment toute leur vie à ce que Dieu veut, jouissent du bonheur sur la terre fertile que Dieu donne, a promis, et aussi aient un fort impact dans la vie de leurs enfants et aussi dans les peuples alentours. Tout comme Dieu a fait pour Abraham, avec Abraham, il ne veut pas juste te bénir, me bénir, juste nous bénir. Il veut faire de nous des bénédictions pour les autres. Ce matin, nous continuons notre série de messages sur le livre du Deutéronome et nous verrons ensemble comment plaire à Dieu et avoir un impact, un fort impact dans la vie des autres. Je lis maintenant les 6 derniers des 10 commandements dans Deutéronome chapitre 5, versets 16 à 21. Deutéronome chapitre 5, versets 16 à 21. Je vous laisse le temps de trouver cela dans vos Bibles ou dans vos smartphones. Deutéronome chapitre 5, versets 16 à 21. Je cite. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Fin de citation. Alors pour ceux qui peut-être viennent à peine de commencer, et peut-être dimanche dernier, vous ne l'avez pas entendu, ce que nous avons dit sur les premiers commandements, je vous invite à les écouter. Il y a eu 2 dimanches qui sont passés, et donc vous pouvez à la fois écouter via YouTube, mais aussi directement sur le site internet de l'Église. Vous avez juste les fichiers audio, et puis il y a quelques textes aussi. Alors maintenant, allons-y. Comment plaire à Dieu et avoir un fort impact dans la vie des autres ? Premièrement, en honorant nos parents. en honorant nos parents. Alors, je lis, relis le verset 5. « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de jouir d'une longue vie et de vivre heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Ce commandement pourrait paraître coulé de source, mais ce n'est pas le cas. Nous avons tous en nous cette tendance à avoir un mauvais rapport à l'autorité. De tous les temps, il y a toujours eu un mauvais rapport à toute forme d'autorité, que ce soit avec les parents, les professeurs, les policiers, les magistrats, le président de la République. Vous regardez sur Internet ou à la télé, c'est facile de voir que le mauvais rapport à l'autorité, c'est balèze. Hein. J'ai même des histoires tristes de pasteurs où des églises insultaient, en venaient presque aux mains. Et j'ai même une histoire récente sur ce sujet. Le mauvais rapport à l'autorité, ce n'est pas juste un comportement ou des faits. C'est un problème chez tout être humain. Voilà pourquoi honorer les parents est très important pour avoir un impact positif dans toutes nos relations. Les enfants qui apprennent à respecter, écoutez bien, les enfants qui apprennent à respecter leurs parents arrivent plus facilement par la suite à se soumettre à Dieu et à toute forme d'autorité que tous ceux qui sont élevés dans un climat d'anarchie. Ce commandement concerne bien sûr les enfants, mais aussi les adultes. C'est un ordre qui a de belles bénédictions. Pour le peuple d'Israël, honorer les parents pour leur permettre de jouir d'une vie longue et heureuse, parce qu'ils plaisent à Dieu en agissant ainsi. Ils vivent dans l'harmonie familiale. Ils ont un meilleur rapport à toute forme d'autorité, comme on l'a dit tout à l'heure. Cela protège l'harmonie de la société. En agissant ainsi, ils ne seront pas punis par Dieu. Et ils profiteront pleinement du pays fertile que Dieu leur donne, leur promet. Alors vous l'aurez compris, honorer nos parents a un impact positif sur nous-mêmes, sur nos parents et aussi dans toutes nos relations. Petite nuance ici, honorer nos parents ne veut pas dire qu'on va automatiquement vivre longtemps. On peut mourir à tout moment, n'est-ce pas ? Et on sait très bien que plusieurs personnes qui ont honoré leurs parents sont décédées tôt. Mais le fait de faire de bons choix dans la vie peut nous préserver pour une longue vie. Ce qui est bien moins le cas pour des personnes qui sont tout le temps rebelles envers toute forme d'autorité dans la société. C'est donc globalement vrai. Honorer nos parents, c'est les aimer. Les estimer, les respecter, les aider en cas de besoin et être reconnaissant envers eux. Pour un enfant qui n'est pas encore adulte, honorer ses parents, c'est aussi obéir. Mais que devons-nous faire si nos parents étaient ou sont difficiles et n'ont pas été des exemples ? Nous devons quand même les respecter. Nous devons quand même les respecter. Nous ne devons pas masquer les torts de nos parents. Moïse parle à une génération où les parents ont fait n'importe quoi. En tout cas, ils ont commis l'idolâtrie. Ils ont été même punis par Dieu. Et pourtant, Moïse dit à cette jeune génération, « Honore ton père et ta mère. » Intéressant. Continuez à les respecter, qu'ils étaient bons ou pas, ou qu'ils étaient de bons exemples ou pas, ou qu'ils soient en vie ou non. Puisqu'ils peuvent être décédés, et puis nous, on parle très mal d'eux aux autres. Le commandement doit être maintenu. Nous devons continuer à les respecter. Respecter nos parents, c'est connaître, reconnaître que l'être humain garde de la valeur malgré les mauvais choix qu'il fait. Continuons donc de respecter nos parents. Comment plaire à Dieu et avoir un fort impact dans la vie des autres ? Deuxièmement, en recherchant la paix avec tous. En recherchant la paix avec tous. Deutéronome 5, verset 17, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Après Dieu, la vie est notre bien le plus précieux. Chaque personne, quel que soit le mal qu'elle a fait, a de la valeur aux yeux de Dieu. Sa vie ne nous appartient pas et nous n'avons aucun droit de la lui ôter. En parlant de meurtre, Jésus a dit dans la Bible, en Matthieu chapitre 5, versets 21 à 22, « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit « imbécile » passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. » Fin de citation. Jésus frappe fort ici. Il étend le commandement « tu ne commettras pas de meurtre » à la colère. Voilà qui peut sembler vraiment exagéré, n'est-ce pas? Pour Jésus, la colère réprimée, exprimée, les pensées de haine, les insultes, les paroles destructrices, le mépris sont condamnables et font de nous des meurtriers. Et de toute façon, pour que quelqu'un commette le meurtre, souvent ça commence, eh ben, pratiquement souvent, pratiquement tout le temps, ça commence par la haine, la colère, etc., etc. Ce commandement nous concerne tous, les amis. Nous devons reconnaître ce matin que nous avons tous en nous cette tendance. Quand on se sent attaqué dans son identité, dans sa valeur, on a tendance à vouloir rendre le mal pour le mal. À vouloir appliquer notre propre justice comme si nous étions Dieu. Comme si le monde entier devait être à notre service et répondre à tous nos besoins. Notre tendance profonde qui pousse à la colère contre les autres, à l'amertume et à la haine, c'est de mettre nos besoins légitimes au centre de notre vie. On appelle cela de l'égocentrisme. Pour ne pas nous laisser aller à la colère, aux mauvaises paroles et au meurtre verbal et physique, soyons pour la vie, soyons pour le pardon, soyons pour la paix, soyons pour la réconciliation. Recherchons la paix de toutes nos forces avec l'aide de Dieu. Si dans une relation, ça ne va pas à l'intérieur, dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos motivations, si nous commençons à avoir du ressentiment, de la colère, de l'amertume, de la haine, refusons de rester ainsi. Reconnaissons le plus rapidement possible notre impuissance. Demandons pardon à Dieu. Crions à Dieu. Demandons-lui son secours, son aide. Et cherchons à faire sa volonté. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis, de pardonner, de rechercher la paix. Et si nous en ressentons le besoin, faisons appel à une personne mature dans la foi pour exposer notre difficulté relationnelle, être aidé et avoir quelqu'un avec qui prier. Rechercher la paix a tellement d'impact dans ce monde, dans la vie des autres. Il y a eu dans l'histoire des artisans de paix qui sont devenus de grands influenceurs car ils ont permis qu'il y ait de grands changements dans ce monde. Vous avez peut-être en tête plusieurs personnalités qui ont fait des choses extraordinaires parce qu'ils étaient des artisans de paix. Mais n'oublions pas que ces personnes qui ont eu autant d'influence ont commencé petit, petit. C'est pas d'un coup on se dit « je vais être un grand artisan de paix, je vais être un grand influenceur », ça se passe pas comme ça. On commence petit. Là où tu es, dans les relations difficiles que tu rencontres avec tes proches, avec des gens que tu côtoies au quotidien, Dieu veut que tu fasses une différence. Comment plaire à Dieu et avoir un fort impact dans la vie des autres? Troisièmement, en restant fidèle à notre conjoint. Verset 18, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Commettre l'adultère, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. La fidélité des couples est sans cesse menacée par les films, les jeux vidéo, les pubs, les réseaux sociaux, la recherche du plaisir qui est devenu ce qui domine notre société. On pourrait continuer la liste. Je suis triste parce que je vois aussi dans les couples chrétiens que la fidélité est menacée par toutes sortes de choses. Toutes, parfois bêtes, parfois petites, mais qui prennent de l'ampleur ensuite. Certains comprennent, et je vois cela souvent, certains comprennent mal ce que signifie le mariage pour Dieu. On veut vivre la vie de couple comme cela nous convient et divorcer quand ça ne va pas. C'est comme si la promesse du mariage n'était basée que sur le coup de foudre et sur des sentiments et non sur un engagement à aimer l'autre, quelles que soient les difficultés relationnelles. La Bible n'a jamais dit qu'on pouvait changer de conjoint comme on change de chaussettes. Dieu est un Dieu d'engagement. On ne joue pas avec ça. Le mariage n'est pas un jeu. Dieu veut que nous manifestions le même engagement que lui dans la vie du couple. Et si vous prenez le temps pour zoomer quel est l'engagement que Dieu a eu envers son peuple, c'est impressionnant. Alors que même son peuple était capable de commettre l'idolâtrie, Dieu restait fidèle. Il était engagé envers son peuple. Le mariage, c'est un contrat à vie, quelles que soient les difficultés. Une alliance qui ne se défait pas. Renoncer à mes intérêts pour le bien du couple et de la famille. Ce qui est difficile à cause de notre tendance à l'égocentrisme. Et à cause du péché, le mariage, c'est aussi supporter des conflits qui peuvent parfois durer longtemps. C'est aussi ne pas tout le temps se comprendre dans le couple. Et je dis souvent ça aux couples en difficulté, c'est se battre. Le mariage, à cause du péché, c'est se battre pour faire gagner le « nous » et pas le « je », pas moi, mais la vie du couple, le « nous », pour protéger la vie du couple, la relation. Vous l'aurez compris, le mariage n'est pas du tout un monde de bisounours, comme on le voit dans les films. Et celui qui commet l'adultère compromet en fait avant tout la beauté du mariage et la force de l'engagement. De là, l'adultère, ça va tout seul. Il va chercher ailleurs ce qu'il n'a pas dans son couple. J'ai pas ci, j'ai pas ça, mais j'ai trouvé quelqu'un qui me donne ce que je n'ai pas. Ah, c'est tellement bon. Jusqu'au moment où, l'adultère arrive. Ou des personnes vont tout simplement chercher leur satisfaction sexuelle ailleurs. Gardons-nous de convoiter une personne qui n'est pas notre conjoint, de porter sur elle des regards chargés de désirs ou de penser à elle régulièrement. Jésus-Christ étend le commandement « Tu ne commettras pas d'adultère » à la convoitise. Il dit dans la Bible en Matthieu chapitre 5, versets 27 et 28, « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désirs, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. La convoitise est autant condamnable que l'adultère. Donc, prenons très au sérieux ce sujet. Ne laissons pas des pensées de convoitise venir en nous. Rejetons-les immédiatement et demandons la protection de Dieu dans nos pensées. La fidélité du couple, ce n'est pas juste, je suis fidèle, je ne commets pas d'adultère, je protège mes pensées et puis c'est bon. Non, la fidélité est vraiment importante et ce que Dieu attend, c'est une fidélité en amour. Continuer à exprimer notre amour par notre écoute, des échanges profonds, des temps de qualité, de rire, de soutien mutuel. C'est contribuer sans cesse au bonheur de l'autre pour glorifier Dieu, l'honorer. Si la convoitise est un combat trop difficile pour toi aujourd'hui, ou si tu vois que dans ton couple, tu as du mal à régler des problèmes relationnels, je t'en supplie, ne reste pas seul. Viens me voir. Ou parle-en à un chrétien mature dans la foi pour être encouragé, prier et vivre des victoires. J'encourage aussi souvent les couples qui ont besoin d'aide à rencontrer un conseiller conjugal. Ce n'est pas d'un coup, on va voir un conseiller conjugal, donc on est trop malade. Non. J'ai beaucoup d'estime pour les couples qui ont fait cela. Beaucoup d'estime pour ces couples-là. C'est tellement important. Mes amis, l'impact d'un couple qui grandit en amour a tellement d'impact dans la vie des enfants, dans la vie d'une église, dans la société. Soyons-en conscients ce matin. Comment plaire à Dieu et avoir un impact dans la vie des autres? Quatrièmement, en pratiquant la libéralité. Deutéronome 5, verset 19, « Tu ne commettras pas de vol. » Nous ne devons pas voler quoi que ce soit aux autres. Nous ne devons pas non plus tricher au travail et voler de l'argent ou du temps à notre patron. Nous ne devons pas non plus chercher à tricher concernant nos impôts. Attention. La Bible donne une solution concernant le vol dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Nous ne devons pas voler, mais travailler honnêtement pour pouvoir secourir ceux qui sont dans le besoin. C'est marrant parce que dans le texte qu'on vient de lire, ça ne dit pas « pour pouvoir à nos besoins ». Ça fixe un autre objectif. C'est sous-entendu. C'est pour qu'on ait plus pour bénir les autres. C'est beau. Nous travaillons pour ensuite bénir les autres avec ce que nous avons gagné. À cause du péché, notre tendance est de gagner de l'argent et de garder l'argent pour nous, de nous enrichir, d'amasser des biens matériels et on fait cela pour plus de plaisir. Mes amis, travaillons plutôt pour manifester notre amour aux autres. Pratiquons la libéralité. Bénissons notre famille, nos amis, l'église locale dans laquelle nous nous sommes engagés, les associations qui viennent en aide aux personnes en difficulté. Soyons promptes à donner à ceux que nous connaissons, qui sont dans le besoin. Dieu veut bien que nous jouissions de nos richesses, mais il veut aussi que nous bénissions les autres avec ce que nous avons. Ne l'oublions pas. Comment plaire à Dieu et avoir un fort impact dans la vie des autres? Cinquièmement, en étant honnête et digne de confiance. Verset 20, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Comme le dit si bien Bob Gass, la malhonnêteté est presque devenue une vertu de nos jours, et pas seulement dans le milieu politique. Embellir un CV, exagérer son rôle dans telle ou telle action, se créer une belle attitude aux yeux des autres, c'est oublier que Dieu voit tout, y compris au plus profond de notre cœur. Fin de citation. Là encore, notre tendance, à cause du péché, c'est de ne pas être vrai, de cacher notre vrai moi, nos valeurs, nos véritables opinions, en jouant un rôle. Nous avons du mal à être vrai parce que nous voulons exister, plaire aux autres, être appréciés, être admirés, être valorisés ou trouver notre place dans un groupe d'amis ou d'une organisation. Et donc nous sommes prêts à faire de façon à être bien vus en nous cachant nous-mêmes. Mes amis, soyons vrais et disons la vérité à tout moment, que ce soit devant un tribunal ou dans une conversation de tous les jours. L'un des impacts que cela aura sur les autres, c'est que nous gagnerons leur confiance. Je pense qu'on serait plusieurs à dire que l'honnêteté nous a permis de gagner des relations profondes avec quelques personnes. Nous gagnons des relations plus profondes. Les gens nous font confiance. Ils oseront ensuite s'ouvrir davantage à nous. Une autre manière d'être honnête dans ce que nous disons, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux non-croyants sans la déformer. Ne cherchons pas à plaire en annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Osons parler de ce qui dérange, comme le péché et l'enfer, non pour déranger ou manipuler les autres, mais pour qu'ils saisissent l'importance de vivre pour Jésus-Christ, afin de placer leur foi en lui. Comment plaire à Dieu et avoir un impact fort dans la vie des autres? Sixième et dernier point, en vivant dans le contentement. Verset 21, tu ne porteras pas tes désirs sur la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Convoiter signifie avoir un très fort désir de posséder quelque chose qui appartient à une autre personne. Au point de ne plus en vivre, on a tellement envie de posséder ce qui appartient à l'autre. Ne pas convoiter, le contraire, c'est vivre pleinement dans le contentement. c'est être satisfait de ce qu'on a. Ce dernier commandement est pour moi la cerise sur le gâteau. Car vivre dans le contentement nous protège pour vivre tous les autres commandements. Quand nous vivons dans le contentement, nous ne cherchons pas d'autres dieux. Nous ne cherchons pas notre valeur dans le travail. Nous ne nous arrêtons pas sur les fautes de nos parents. Nous ne cherchons pas à rendre le mal pour le mal. Nous ne cherchons pas à avoir un autre conjoint. Nous ne volons pas, nous ne trichons pas, nous ne mentons pas contre notre prochain. Nous sommes satisfaits en Dieu, en Christ. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Malheureusement, notre tendance à tous est de trouver toujours l'herbe plus verte dans le près d'à côté. Nous avons tendance à vouloir plus, plus, plus. Nous cherchons aussi naturellement notre joie et satisfaction ailleurs qu'en Dieu, alors que seul Dieu en est la source. Nous avons en nous un vide en forme de Dieu. Dieu seul peut le remplir. Mes amis, soyons satisfaits de ce que nous avons. Cela veut dire aussi, acceptons les manques qui font partie de la vie. Et plus moi je vois ces manques de la vie, et plus je me dis, ça me fait encore plus envie de vivre l'éternité dans la présence de Dieu. Ça me rappelle que je serai satisfait un jour totalement en Christ. Alors trouvons déjà dès maintenant, dans l'intimité avec Dieu, notre joie suprême et notre satisfaction, et non ailleurs. Je conclue maintenant. Comment plaire à Dieu et avoir un fort impact dans la vie des autres? En honorant nos parents, en recherchant la paix avec tous, en restant fidèle à notre conjoint, en pratiquant la libéralité, en étant honnête et digne de confiance, et en vivant dans le contentement. Rencontrer des gens comme cela, c'est vraiment agréable. Les commandements que nous avons vus ensemble, depuis maintenant, c'est le troisième dimanche, tout ce que nous avons vu ensemble, ces commandements ne nous sont pas donnés pour gagner le paradis, pour gagner la présence de Dieu. En fait, ces commandements, quand on lit le reste de la Bible, ces commandements nous disent que nous ne sommes pas du tout au niveau que Dieu veut. Et cela nous rappelle que nous sommes pécheurs et que nous méritons la mort et l'enfer. Ce n'est pas très joyeux ce que je dis. Ces commandements ne peuvent pas être pratiqués totalement. On a besoin de la puissance de l'Esprit pour le vivre. Seul Jésus-Christ a réussi à pratiquer les commandements que nous avons vus ensemble. Et il est mort, il est ressuscité pour rétablir notre relation avec Dieu pour l'éternité. Alors puisque Dieu nous aime d'un amour éternel, puisque Jésus-Christ a donné sa vie pour nous afin de rétablir notre relation avec Dieu, exprimons par ces commandements que nous avons vus, et bien d'autres encore, notre amour pour Dieu, notre amour pour les autres, et ayons un fort impact dans la relation avec les autres. Je vais prier. Dieu notre Père, pardon parce que nous échouons si souvent face à l'un ou l'autre de tes commandements. Notre tendance, à cause du péché, est de nous éloigner tout le temps de toi et de ne pas aimer notre prochain comme nous le devrions. Pardon, notre Dieu. Nous reconnaissons ce matin que nous avons vraiment besoin de ton secours pour vivre ces perles qui non seulement te glorifient, mais apportent aussi tellement de bonheur et tellement de joie à nous et aussi aux autres. Aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes, afin d'être centrés sur toi et aimer les autres comme tu les aimes. Que ton amour pour nous nous pousse à davantage t'aimer, à davantage aimer les autres, pour un fort impact dans leur vie. Oui, nous voulons impacter la société par notre respect des parents. Nous voulons impacter ceux avec qui la relation est difficile en recherchant la paix. Nous voulons impacter notre conjoint, notre famille, notre église par notre fidélité dans le couple. Nous voulons impacter ceux qui sont dans le besoin par notre libéralité. Nous voulons impacter toutes nos relations par notre honnêteté, en étant dignes de confiance. Nous voulons impacter les non-croyants par notre contentement en Jésus-Christ. Seigneur, continue à nous transformer, agis en nous, notre Dieu. Nous nous attendons à toi, pour ta gloire et un impact fort dans la vie de tous ceux que nous connaissons. Merci Seigneur pour ton œuvre en nous. et dans tout ce que nous côtoyons au quotidien. Au nom de Jésus. Amen.